Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, quatrième vendredi du mois, c'est donc la Fondation Copernic qui a investi l'émission Mode d'emploi. Au micro, nous retrouvons Laurent et Mathieu. Aux manettes, Claude. L'émission de ce soir est consacrée à l'extrême droite en Europe. Un sujet d'actualité s'il en est. À quelques semaines des échéances électorales municipales et européennes, nous allons essayer de dresser un état des lieux des mouvements d'extrême droite dans leur diversité, leurs idéologies et leur dynamique, en France et en Europe. Nous explorerons également les différents mouvements de résistance qui leur font face dans la rue et dans le monde du travail. Pour parler de ce sujet, nous recevons Gaël Brustier, chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et spécialiste des droites et des dimensions culturelles de la politique.
Bonsoir.
Nous avons également à nos côtés Bernard Schmid.
Bonsoir.
Engagé dans le mouvement de résistance des syndicats, notamment au sein de la coordination Visa, et également membre du MRAP. Nous aurons également au téléphone, un peu plus tard dans l'émission, Bernard Richard, qui est le réalisateur du documentaire « Mimbrine sur la ville ». Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10. Bon, ça risque d'être occupé puisqu'on a Bernard Richard au téléphone. Et comme toutes les précédentes émissions, vous pourrez la télécharger sur le site internet de la Fondation Copernic, fondationcopernic.org, ou la réécouter mercredi prochain sur FPP à partir de 7h du matin.
Alors nous allons commencer cette émission par une première partie consacrée à la situation de l'extrême droite en France. Donc je vais vous interroger, Gaël Brustier, sur un peu qu'est-ce que aujourd'hui l'extrême droite en France, quels sont un peu ses contours. Elle est très diverse, c'est ça?
Oui. L'extrême droite a toujours été très diverse en France, que ce soit avant-guerre ou depuis la fondation du Front National. En vérité, c'est une vaste nébuleuse. Le Front National avait été créé justement pour créer une unité organique de toutes les extrêmes droites sur la base d'un compromis nationaliste. C'est-à-dire qu'au sein du Front National, on avait des païens, on avait des catholiques traditionnalistes, on avait des nostalgiques de l'Algérie française, on avait même des nostalgiques de l'Algérie française qui avaient été des résistants, et puis des collabos en grand nombre, puisqu'il y avait Brignot, il y avait Gauthier, etc., qui avaient pour état de service soit la milice, soit la Waffen-SS, soit les Jeunesses Nationales Populaires de DA, etc. Donc il y avait une très vaste gamme d'extrêmes droites, et puis l'extrême droite n'a jamais cessé d'évoluer. Alors aujourd'hui, on est tout ébahi devant la mutation apparente du Front National. En vérité, le FN n'a jamais cessé de muter en 40 ans d'histoire, et l'extrême droite française n'a jamais cessé de muter. Bon, il y a des grandes lignes de continuité. On va dire que depuis le général Boulanger et ce mouvement qui avait marqué la Troisième République, existe, on va dire, pour aller grosso modo, existe une tendance qui est le national-populisme, et qui est en fait le principal inspirateur du lepénisme, dans sa forme telle qu'on l'a connue, qui s'est enrichi de nombreuses petites originalités, dont n'était pas la moindre, par exemple, l'apport des gens du Club de l'Horloge autour de Le Gallou ou de Maigret, par exemple, sur la préférence nationale et la théorisation de tout ce qui était thèse différentialiste, etc., au cours des années 80. Donc aujourd'hui, l'extrême droite est très diverse. Elle est très diverse au sein du Front National, mais elle est encore plus diverse à l'extérieur, puisque le Front National, en mutant, en fait, a rejeté à l'extérieur un certain nombre de groupes. On peut citer le Parti de la France de Karl Lang, qui regroupe en fait l'espèce de premier Front National avec différentes tendances. Il y a les Bécroutes, il y a tout un tas de gens comme ça qui sont des militants historiques de l'extrême droite française, Algérie française, des païens, des catholiques traditionnalistes, etc.
Ils sont à l'intérieur du Front National ou vraiment à l'extérieur?
C'est une scission créée en février 2009.
C'est une des nombreuses scissions. Il y a aussi le groupe de Spiller, par exemple, en Alsace. Spiller est un ancien député du Front National. C'est plutôt un néo-païen. C'est plutôt un type qui est proche de la nouvelle droite alsacienne, qui avait créé Alsace d'abord, et puis qui existe avec son propre groupe. Et puis vous avez les identitaires. Les identitaires sont une mutation intéressante parce qu'en fait, c'est les anciens nationalistes révolutionnaires qui étaient au Front National, qui ont quitté souvent le Front National pour le MNR, et qui, après l'attentat de Brunnery contre Chirac, ont décidé qu'il fallait quand même muter. Et on a une mutation des identitaires qui fait que aujourd'hui, ils défilent plus volontiers avec Ludovine de la Rochère et la droite catholique traditionnelle qu'avec par exemple le jour de colère toute la bande de Soral. Et puis vous avez les identitaires sont, on peut leur reprocher bien des choses, leur silence assourdissant le jour de colère était quand même remarquable. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas des groupes se réclamant des identitaires localement qui ne participent pas à ce type d'action, parce que c'est un groupe très éclaté avec une très faible centralisation relative, on va dire. Et donc il y a pas eu de mot d'ordre de la part de il y a pas de mot d'ordre identifiable de la part de Robert ou de Vardon, donnant l'ordre aux militants identitaires de participer au jour de colère. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui y participent. Néanmoins, c'est une organisation qui, selon les mots de leur leader, vise à faire peur à leurs adversaires, mais plus peur à leur grand-mère. Alors que quand on voit l'équipe sur Toulouse qui avait sévi, ils en sont encore un peu loin. Mais voilà. Donc vous avez une très vaste gamme d'extrême droite. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est le phénomène majeur, c'est la normalisation apparente du Front National, qui agace un certain nombre de militants de l'extrême droite la plus dure, et qui explique qu'on voit une convergence entre des militants de droite radicalisés, par exemple au jour de colère, et une extrême droite qui a été rejetée sur les marches du Front National. Donc ça, c'est le nouveau phénomène. C'est vraiment un phénomène qui est capable d'agglomérer autour de slogans assez curieux, voire franchement d'un autre temps et détestable, quelques dizaines de milliers de personnes, ou sous la pluie d'ailleurs, en janvier dernier à Paris. Donc voilà, on a une extrême droite qui est, d'un point de vue organique, autour du Front National électoral très forte, et puis on a tous ces groupes qui pullulent autour, et qui sont pas des forces à négliger, surtout d'un point de vue de l'ordre public, pour beaucoup.
Bernard Schmitt, vous voulez intervenir? C'est un peu votre vision aussi de l'extrême droite aujourd'hui?
J'adhère totalement à la vision globale qui a été présentée. J'apporterai deux précisions. Le premier, c'est que je suis assez en désaccord avec le terme de populisme, parce qu'il me semble un mauvais prisme pour expliquer la nature de l'extrême droite. On pourra rediscuter du terme populisme, mais surtout, le deuxième, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une division du travail qui s'est installée au sein de l'extrême droite, entre un FN qui cherche, dans la situation actuelle, avant tout à gagner des marchés électoraux, donc qui s'inscrit dans une dynamique dite de dédiabolisation décrétée par Marine Le Pen. Ça peut toucher à ses limites d'ailleurs, parce que son père, Jean-Marie Le Pen, a bien dit, lui il a formulé comme ça, un front gentil ça n'intéresse personne, un front sympa ça n'intéresse personne, parce que il ne fera pas parler de lui, parce que il ne sera peut-être pas capable à tous les moments de fédérer des colères dans la société, parce que c'est ça aussi, se démarquer radicalement des autres partis qui fait de lui un aimant, un attracteur. Mais pour le moment, la dynamique qui l'emporte au sein du parti, c'est la logique dite des dédiabolisations. Il est totalement vrai que ça rejette sur le bord de la route, en ce qui concerne le FN en tant que parti électoral, d'autres forces, mais qui ne sont pas moins actives. Alors, ce que je rajouterai, c'est deux idées. La première, il y a une des forces les plus importantes à côté de la mouvance identitaire qui s'installe effectivement dans une division des rôles avec le FN, sachant que le FN a maintenant des têtes de liste qui viennent de la mouvance identitaire, notamment dans le Lyonnais, en région lyonnaise. Il y a une autre mouvance qui est la mouvance catholique intégriste, qui s'est un peu même retirée du FN pour des désaccords idéologiques. Ça a commencé avec le retrait de Bernard Anthony, qui déclare dans Minute le 10 mai 2006 que depuis le début de l'année 2006, je ne paie plus mes cotisations au FN, qui avait été député européen du FN depuis 1984, qui était un peu la tête de pont des catholiques traditionalistes au sein du FN. Cette mouvance, à la fois, se sentait un peu abandonnée par Jean-Marie Le Pen quand le FN s'est sclérosé pendant les dernières années de la présidence de Jean-Marie Le Pen. Et puis, surtout, elle s'est sentie trahie par l'ascension de Marine Le Pen.
Oui, parce que, par exemple, on les a moins entendus, par exemple, sur les débats sociétaux récents qu'on aurait pu penser.
On les a beaucoup entendus, mais en dehors du FN, précisément.
Voilà, c'est ça.
Parce que la direction du FN, surtout Marine Le Pen et Florian Philippot, avaient fait un pari en disant « on n'investit pas totalement ce terrain-là ». Un, pour ne pas nous ringardiser, parce qu'on a fait un pari de gagner des nouveaux parts de marché électoral chez les femmes, chez les jeunes générations, etc. Aussi un peu en disant « il y a des nouvelles formes d'extrême droite, on parlera tout à l'heure de l'Europe ». des nouvelles formes d'extrême droite, par exemple l'extrême droite néerlandaise, qui est très innovatrice, avec Pim Fortuyn, puis après son assassinat en mai 2002, avec son héritier politique, le fameux blond peroxydé Geert Wilders, donc chef du PVV, du Parti de la Liberté depuis 2006, qui lui, il dit, moi je suis pas homophobe, je suis pas contre les droits des femmes, c'est les musulmans qui eux sont réactionnaires. Alors, moi je pose aucun problème, hein. Moi je suis pas homophobe, moi j'ai pas ces traditions là. Évidemment le FN a ces traditions là, mais le FN lorgne en partie ou la direction vers ces nouveaux modèles d'extrême droite qui émergent, par exemple avec Geert Wilders, en disant on peut rejeter les accusations d'être homophobe, d'être réactionnaire sur l'ennemi stratégique principal, en tout cas celui du moment, l'immigrant musulman, marqué comme musulman. C'est ce que fait Geert Wilders, qui définit très clairement un ennemi principal, beaucoup plus que l'a fait le FN sous Jean-Marie Le Pen, qui avait des ennemis plus variés, mais qui refusait de s'aligner entièrement sur une stratégie qui disait que c'est que l'islam qui est l'ennemi principal. C'est ce que lui reprochait d'ailleurs Philippe de Villiers. Et les catholiques traditionalistes, à ce moment-là, en 2005-2006, ils hésitent entre rester au FN ou rallier Philippe de Villiers. Certains font le choix d'aller chez de Villiers, même des éléments assez radicaux, comme Jacques Bompard, qui va quitter de Villiers assez rapidement parce qu'il trouve ça trop modéré, trop tempéré. Il va d'ailleurs s'allier avec les identitaires par la suite, donc le maire de la ville d'Orange. Mais il est passé chez de Villiers pendant 2 ans. Il a rallié le 3 novembre 2005. Donc ce courant s'est largement retiré du FN, et mais on l'entend bruyamment depuis le début du mouvement opposé au mariage pour tous. Donc ça, c'est un courant qu'il faut pas perdre de vue en ce qui concerne l'importance militante. Deuxième idée très rapidement, une extrême droite peut se planter stratégiquement, notamment quand elle décide ce que n'a pas fait le FN aujourd'hui, mais quand elle décide d'intégrer des coalitions pour gérer les affaires. Ce qu'a fait l'extrême droite en Autriche à un moment, de 2000 à 2005, qui était au gouvernement, ce qu'a fait une large partie de l'extrême droite italienne à plusieurs reprises sous Berlusconi, 1994, puis 2001, puis 2008, mais ce que n'a pas fait l'OFN. Mais on a vu en Grèce, avec le déclin de l'ancien parti historique de l'extrême droite qui était le Laos, qui est entré dans un gouvernement qui s'est monumentalement planté et qui s'est fait complètement supplanter par une nouvelle force qui jusque-là était marginale et qui a totalement pris le devant de la scène avec Obdoré, Chrissi Avgi, le parti néo-nazi. Donc une extrême droite est toujours menacée de se voir remplacée par d'autres forces si elle perd en dynamique. Et je pense que c'est la peur qui habite aussi une partie du FN.
Pour revenir sur la France, est-ce qu'on peut définir différents groupes par leurs idéologies? Est-ce qu'il y a des idées sur lesquelles ils se différencient, bloc identitaire, catholicisme traditionnel, Front National? Quelles sont les principales lignes de partage sur l'idéologie?
Ouais, en gros, d'abord, en général, moi, je suis pas partisan de décortiquer ou de le programme du Front National, par exemple, ou de faire une déconstruction trop précise de leur programme, parce que en fait ils surfent beaucoup sur un imaginaire. Bon, et en fait on a quand même ils actionnent deux types de leviers. Un levier principalement qui est celui qui est très national. On voit avec la mutation du Front National type Philippot, qui est le virage dit social, dit républicain, c'est-à-dire que ça c'est un vieux virage, puisqu'en fait c'est 84, le Club de l'Horloge avait déjà dit qu'il fallait utiliser les mots de la République pour faire passer les idées de l'extrême droite. Donc c'est pas neuf. Simplement, il est vrai que un type comme Philippot considère que l'État-nation est un absolu, et des gens comme les identitaires considèrent que, si vous voulez, les identités fonctionnent comme des poupées gigognes, donc il y a le local, le régional, le national et l'européen. Et ces mouvements identitaires, en fait, ils représentent pas massivement l'électorat d'extrême droite aujourd'hui en France. Il faut constater que l'articulation du discours Philippot marche très très bien, notamment dans le nord-est de la France, beaucoup plus que les identitaires qui sont quand même présents dans un certain nombre d'endroits, mais qui électoralement, sauf à Nice, font pas des percées fulgurantes. Après, vous avez d'autres types de clivages assez traditionnels. Vous avez les clivages entre les catholiques effectivement traditionalistes et puis ceux qui sont absolument pas catholiques, voire païens. Vous avez d'autres clivages entre ceux qui sont encore des néolibéraux autour du Club de l'Horloge et puis ceux qui sont des étatistes forcenés. Alors, en ce domaine, Philippot fait partie de ceux qui ont une espèce de forme de statolatrie assez drôle par rapport aux traditionnels idéologues libéraux, des gens comme Le Gallou sont plus libéraux d'habitude. Bon, vous avez un certain nombre de clivages comme ça. Bon, ce qui marche quand même au Front National, il faut voir les choses. Et d'ailleurs, c'est quand la campagne de Marine Le Pen a patiné, bon, faut se souvenir qu'elle était attendue de pied ferme par le père dans le salon de Montretout, qui tous les soirs l'attendait jusque tard parce que il voulait quand même recadrer les choses. Ce qui fait la force du Front National et ce qui a fait sa force, c'est la thématique de l'immigration. La thématique de l'immigration, elle est importée au Front National, qui se veut un calque du mouvement social italien et Messi, qui était le parti néofasciste, par un type qui s'appelait François Duprat et qui est mort en mars 78 dans l'explosion de sa voiture. Bon, Duprat était en fait le premier numéro 2 du Front National, probablement l'idéologue et le stratège premier du Front National. Le Pen, lui, n'était pas très partant pour parler de l'immigration. Quand Marine Le Pen s'est éloignée de cette thématique de l'immigration, dans les sondages, elle a marqué le pas. Elle a marqué le pas parce que face à un Sarkozy qui, lui, avec les thématiques de l'identité nationale, avait non seulement prouvé qu'il était capable d'en parler, mais que d'une certaine manière, ayant les leviers du pouvoir, s'il y avait une petite chance de faire quelque chose pour cet électorat-là, bah, il les devançait encore. Donc, à un moment donné, il s'est agi pour Le Pen de battre en brèche le courant techno-souverainiste, social machin truc de Philippot. Et de remettre les vieilles thématiques de l'immigration, de la sécurité sur le devant de la scène. Et de tous ceux qui ont pu observer des foules Front National, ce qui fait vibrer le militant Front National, ce qui fait vibrer le cœur de l'électorat Front National, sont quand même les thématiques de la sécurité, les thématiques de l'immigration, de la lutte contre l'immigration. Et c'est pas trop le retour aux francs, même s'ils sont absolument pas pour l'euro, etc.
Le cœur,
c'est ça. Et une fois, quand ils se débarrassent de ça, c'est-à-dire que le fantasme de Philippot, qu'il a quand même en partie abandonné, je crois, de faire une espèce de rassemblement souverainiste autour du Front National, purement souverainiste, qui consisterait à quitter l'Europe, etc., n'est absolument pas rentable pour le Front National. Électoralement, c'est pas quelque chose qui a marché. Quand Marine Le Pen l'a mis en place, ça n'a pas marché. Par contre, il faut se souvenir de son discours d'Ajaccio, où elle avait fait le virage et elle avait remis de l'immigration, de l'identité, etc., particulièrement, elle avait fait un discours clairement maigrettiste. À partir de là, elle recommence à grimper, à reséduire cet électorat, une partie de l'électorat qui pouvait être tentée par Sarkozy et l'efficacité. Les sarco-lepénistes reviennent dans le giron à partir probablement du discours d'Ajaccio, ça doit être en février 2012, si je me souviens bien.
Il y a surtout la convention présidentielle à Lille, le 18-19 février, où elle met au centre la pseudo-thématique du halal dans les cantines scolaires. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est la reprise par l'UMP de la fausse problématique. Parce que d'abord, la réaction de la droite et de tous les autres partis, c'est n'importe quoi, c'est un faux sujet. Une semaine plus tard, c'est y compris le soi-disant modéré de la droite classique, François Fillon, qui reprend la balle au tournant et qui rajoute d'ailleurs les juifs, parce que Marine Le Pen parlait du halal et des musulmans, et c'est François Fillon qui dit tous ces trucs-là, le kasher chez les juifs et le halal chez les musulmans, c'est un vrai problème, et il y a Claude Guillon qui développe derrière, et d'ailleurs si les étrangers vont voter aux élections municipales, là vous allez voir, on va vous donner du halal à tous les repas, etc., parce qu'on va l'imposer aux maires, parce qu'il y aura des musulmans qui votent au niveau local, etc. Je vais juste revenir à deux thèmes qui ont déjà été abordés par Gaël. Effectivement, l'importation du thème de l'immigration par Duprat est assez intéressant. Il le fait d'ailleurs en ayant recours, en analysant ce qui s'est passé en Suisse. Et ça fait un peu lien avec l'actualité, parce qu'il y a eu un référendum en 1970 en Suisse sur la limitation de l'immigration, qui a été un échec à la différence de celui de février 2014, avec 46% des voix. Mais c'était quand même un succès assez monumental par une force d'extrême droite qui était relativement marginalisée contre les syndicats, contre le grand patronat, contre tous les grands partis. Et donc, Duprat, il dit, là, il y a eu quelque chose à creuser. Et donc, l'extrême droite est toujours capable de prendre des impulsions comme ça, y compris.
Oui, parce que ça, on a l'impression que c'est devenu vraiment le fond de commerce de la droite extrême aujourd'hui, le discours anti-islam.
Alors justement là-dessus, l'extrême droite a plusieurs discours et c'est là qu'on voit aussi certains des clivages idéologiques. Moi je suis d'accord, le programme c'est assez instrumentalisé à l'extrême droite. Les programmes électoraux, ça c'est vraiment, ça ne reflète pas grand-chose parce que ça suit les girouettes des conjonctures politiques, etc. Ils les prennent eux-mêmes pas très au sérieux. Par contre, C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Gaël, que l'imaginaire compte, l'imaginaire historique, gestuel, etc., compte beaucoup plus pour l'extrême droite. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que se construisent les différents courants, les païens et les catholiques traditionnalistes, la contre-révolution éternelle anti-1789 et ceux qui se revendiquent nationalistes révolutionnaires, les néo-nazis et ceux qui disent qu'ils ne sont pas liés à cette histoire du fascisme de l'entre-deux-guerres, etc. Mais y compris, on voit ces différents courants dans le discours sur qui est l'ennemi, qui sont nous, quelle est l'essence des nôtres et qui sont eux, eux de qui il faut se démarquer, ou eux qui nous occupent, ou eux qui nuisent à nos intérêts. Dans le discours sur l'islam, par exemple, il y a au moins trois discours dans l'OFN. Il y a un discours assimilationniste, un peu républicain, qui reprend d'ailleurs le vieux discours colonial, c'est-à-dire il faut qu'ils s'adaptent quand ils viennent ici, il faut qu'ils respectent nos lois, et ça renvoie un peu au discours de la colonisation sous l'Algérie française. Ben, c'est bien qu'il y ait des musulmans en France et que la France aille jusqu'à Tamanrasset. Simplement, il faut qu'ils nettoient nos merdes. Hein. Il faut qu'ils restent pas dans la société et qu'ils se contentent des places qu'on leur donne. Donc c'est ça le discours assimilationniste. Il faut qu'ils restent aux places qui leur sont imparties. Il y a un discours au contraire totalement différentialiste qui est par exemple celui des identitaires. Ils sont foncièrement différents, les musulmans. C'est une menace. Mais ça a un autre volet, c'est le discours de la fascination. Ça, c'est l'apport de la nouvelle droite intellectuelle des années 1970, avec Le Grèce et Alain de Benoist, qui dit « les identités sont différentes, elles se valent tous, il n'y a pas de race supérieure, de race inférieure, ça c'est l'histoire, nous on ne défend plus ça ». Les cultures se valent, mais elles sont différentes, il ne faut pas les mélanger. Or, l'islam politique, l'islamisme, montre ça aussi, qu'ils ne veulent pas se mélanger, donc c'est très bien. Donc on peut donner la main aux D'accord. islamistes. Jean-Marie Le Pen, qui lui est une œcuménique, c'est pas un théoricien, c'est pas un doctrinaire. Donc lui, un jour il fait un discours qui va dans le sens d'un courant dans l'extrême droite, et le lendemain il fait un discours qui va complètement dans l'autre sens. Aujourd'hui il est assimilationniste, demain il est différentialiste, etc. Mais parfois, il a repris cette impulsion parce qu'il a fait parfois des gestes vis-à-vis d'islamistes. Par exemple, il a rencontré Necmettin Erbakan, ex-premier ministre déchu islamiste en Turquie. En août 1997, il a eu des contacts avec le régime iranien. On se souvient, lors de la Coupe du monde de football en France en 1998, lors du match Iran-États-Unis, beaucoup craint par certains qui se tenaient à Lyon, Jean-Marie Le Pen et Bruno Gornich étaient à la tribune d'honneur du régime iranien. C'est ça qui a fait que la direction du FN sous le PR, sous Jean-Marie Le Pen, était parfois marginalisée dans l'extrême droite du continent en Europe. Parce qu'il D'accord. y en a qui ne comprenaient pas, qui disaient c'est fou, il fréquente des infréquentables, les ennemis de l'Occident, c'est irresponsable, c'est qu'est-ce qu'il fait. La fille, elle se range sur la dernière ligne qui est celle de la définition de l'islam conquérant, entre guillemets évidemment, comme l'ennemi principal et la menace principale. Ça, c'est la ligne qui est majoritaire parmi les partis de l'Europe occidentale. En Europe de l'Est, c'est un peu différent. C'est plutôt sur les Roms et parfois sur les Juifs. Il y a peu de musulmans d'ailleurs, sauf en Bulgarie, avec la proximité de la Turquie. Mais Marine Le Pen, elle s'est complètement alignée sur cette ligne-là.
D'accord. Alors, on va revenir en deuxième partie d'émission sur, justement, l'extrême droite en Europe. On va faire une première pause musicale et on va écouter Alborosi avec Herbalist. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Nous venons d'écouter Alborosi, Herbalist. Vous êtes bien sur l'émission de la Fondation Copernic, avec aujourd'hui comme thème l'extrême droite en Europe, avec Gaël Burstier, Bernard Schmitt et peut-être Bernard Richard qui va nous appeler durant l'émission. Sinon, peut-être. Vous pouvez vous-même appeler au 01 40 05 06 10 et intervenir à tout moment.
Deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser, on a déjà parlé un petit peu, hein, on a vu les influences que peuvent avoir l'extrême droite en Europe sur sur le Front National et sur les mouvements d'extrême droite en France. Gaël Brustier, quels sont les pays en Europe où l'extrême droite est la plus forte électoralement? On a entendu parler pas mal de la Hongrie, de la Grèce ces derniers temps. Voilà, quelle est votre vision de l'extrême droite en Europe?
La Grèce, aube dorée, c'est 7-8%. Hein. Ils sont particulièrement spectaculaires parce que c'est des vrais nazis et qui sont très violents,
mais c'est pas les plus
les infiltrations dans la police.
Ils étaient arrivés à 15%, mais ils sont retombés après l'assassinat de Pavlos Fissas.
Ils sont bon, il faut être d'abord sur la situation grecque. Voilà, Copernic, vous la connaissez bien, je pense, vous l'observez. Donc c'est une situation très mouvante. Après, il faut regarder les choses. L'essentiel, je pense que ça se passe autour de l'arc alpin, c'est-à-dire que vous avez autour en Autriche, en Suisse, en Italie du Nord. Par exemple, des phénomènes qui sont assez constants depuis une vingtaine d'années autour du FPE autrichien, autour de l'UDC suisse, autour de la Ligue du Nord. Alors évidemment, chacun de ces mouvements a ses hauts et ses bas. Au gré des élections, ils plongent, ils remontent, etc. Blocher et Freisinger ont réussi à faire de l'UDC non seulement une force stable et en augmentation au Parlement suisse, mais en plus, comme on l'a vu, ils gagnent des votations. Et ils ont une véritable stratégie d'influence sur le débat public, sur le débat public suisse. En Autriche, on va voir ce qui se passe. Bon, c'est un pays qui a connu ses scissions, ses scissions à l'extrême droite. Ils étaient parvenus en 2000 au gouvernement où le parti de Haider donc était arrivé avec un peu plus de 27%. A doublé le FAOP, qui est le Parti conservateur, et donc ils avaient mis Schüssel à la tête du gouvernement. Suzanne Rice-Passeur du FPE était la deuxième, et puis en deux ans, en fait, tout ça s'est considérablement gâté, et ils sont passés de 27 à 10%. Puis ils ont scissionné, Haider s'est fâché avec son mentor Mölzer, etc. Et aujourd'hui, il y a un FPE qui potentiellement peut atteindre les 30%.
D'accord, ouais.
Peut atteindre des 30%. Le but de Strache aujourd'hui, c'est de casser ce qu'on appelle la grosse coalition autrichienne, quoi, entre le Parti socialiste social-démocrate autrichien et le FAOP, les conservateurs. Ils ont gagné uniquement grâce aux vieux cette fois-ci. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, ce sont les vieux qui continuent de voter pour cette coalition-là. Les jeunes, ils votent soit vert, soit FPE.
D'accord. D'ailleurs, comme un peu, est-ce que c'est comparable à la situation française où à un moment on a dit le FN est quasiment le premier parti chez les jeunes.
Alors il y a des points de comparaison, c'est un peu différent.
C'est moins polarisé. Quand même.
C'est pas aussi. Puis ce sont pas les mêmes jeunesses qui votent, etc. Il y a des. Il faut voir les choses un peu.
En France, il y a surtout une surreprésentation des retraités à l'UMP. C'est clair, c'est la partie la plus prospère des retraités. C'est un vote de peur et de conservation à la fois de monde ancien et de son patrimoine. Par contre, le PS est plus intergénérationnel. Après, il est en perte de vitesse pour des raisons que vous connaissez bien à la Fondation Copernic, liées à sa politique économique, évidemment. L'EFN aussi est un parti plus intergénérationnel. C'est vrai qu'il gagne sur une image de dynamisme, de dynamique de parti qui n'a jamais été au gouvernement, de parti se voulant contestataire. Il gagne une colère qui existe dans la jeunesse. Par contre, il y a aussi un paquet d'électeurs plus âgés. Il y a des milieux stables qui votent FN ou extrême droite, même avant le FN. Avant le FN, il y avait Jean-Louis Tixier-Vignancourt et d'autres forces. Depuis longtemps, par exemple, une partie des rapatriés d'Algérie sur un vote de mémoire historique et de désir de vengeance.
Ouais. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu, qu'est-ce que veulent ces électeurs? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils souhaitent vraiment l'arrivée, alors on va parler en Europe, hein, et peut-être aussi en France, selon ce que vous allez nous dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite, ou c'est vraiment un vote de protestation, ou c'est une colère, c'est une frustration?
Vous avez deux grands types d'extrême droite en Europe. Vous avez les vieilles extrêmes droites qui sont des extrêmes droites qui sont dans l'affiliation des mouvements fascistes, etc. Forza Nuova en Italie, par exemple, mais qui fait 1% en gros des voix, etc. Vous avez le mouvement de Blas Piñar qui est décédé il n'y a pas longtemps en Espagne, mais ils font rien. Vous avez des mouvements,
le BNP,
le BNP, ou le BNP, etc., qui sont des, ou le Jobim, Bic, qui lui fait 16 et quelques pourcents, lui est qu'un
mouvement
en Hongrie. Ouais. Bon, vous avez ce type d'extrême droite là, qui sont des extrêmes droites, qui sont dans l'affiliation fasciste, néo-fasciste, voire néo-nazie. Et puis vous avez les nouvelles extrêmes droites.
Ça, c'est des électeurs, parce que voilà. Alors, si ça, on parle ça, du
c'est
côté extrême
droite, c'est des forces militantes, c'est des forces parfois ouvertement violentes.
Voilà. D'accord. Mais après, vous avez la mutation des extrêmes droites, dont en fait le travail de l'eurodéputé Mölzer autrichien est emblématique, qui sont la mutation des extrêmes droites. Alors, soit ce sont des partis qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire fasciste, post-fasciste, c'est le cas de Wilders, etc., qui n'ont objectivement rien à voir avec cette histoire-là, et qui sont des formes de néo-populisme, de droite populiste, d'extrême droite populiste. Faut lire l'excellent article de Jean-Yves Camus là-dessus dans le Diplo de ce mois-ci. Alors, selon les termes, parce qu'on peut inventer un nombre de termes vraisemblables. Et puis, vous avez la mutation des anciens partis d'extrême droite. C'est le cas du Front National qui, en partie, mute. Faut reconnaître qu'il est en train d'essayer, il essaye de conjuguer deux choses, et on le voit bien avec la campagne à Paris d'ailleurs, campagne à Paris de Valérie Saint-Just, j'arrête pas de le croiser sur des débats, mais à chaque fois je lui dis entre Saint-Nicolas du Chardonnay et le Marais, il va falloir choisir quoi, au bout d'un moment. En fait non, ils n'ont pas à choisir parce qu'ils accumulent les deux, mais c'est vrai qu'il y a deux types d'extrême droite, la vieille extrême droite traditionnelle, catholique traditionnaliste, etc., d'hier, et puis vous avez les nouvelles formes d'extrême droite qui sont prises de ce qu'on appelle les paniques morales. Alors c'est vrai que l'immigration d'origine islamique sert d'activateur à ces paniques morales-là. En fond, si on regarde bien ce qui se déroule depuis 30 ou 40 ans en Europe et ce qui recompose le paysage idéologique et dont l'extrême droite finalement, et surtout l'extrême droite française d'aujourd'hui, n'est finalement que la caisse enregistreuse, ce sont ces paniques morales qui sont greffées sur la peur, la hantise du déclin, c'est-à-dire l'idéologie du déclin. Et cette espèce d'idée de déclin qui a été le moteur de Thatcher en son temps, qui a été le moteur de beaucoup des droites et des droites, des extrêmes droites, cette idée de déclin-là, elle est véritablement le carburant de tout ça. Alors, on le voit très bien dans le populisme alpin avec le dernier film là sur l'expérience Blocher. C'est fascinant parce qu'en vérité, on voit un type qui est en permanence pris de cauchemars. Alors, il est tout le temps, il est tout seul, il est dans sa grande baraque tout seul, et puis il raconte ses cauchemars, la montagne qui s'écroule, lui qui est dans le Parlement, et puis il dit l'air s'enlève, et puis je suis asphyxié. Ils ont une peur, panique. Alors, c'est vraiment à l'état quasi de précipité ou à l'état pur dans le cas du populisme alpin, que ce soit en Carinthie, que ce soit dans les vallées autrichiennes ou dans les vallées suisses, mais c'est cette angoisse de société traditionnelle face à la mutation du monde, le rappel à un capitalisme traditionnel d'ordre national, le rappel à des valeurs traditionnelles et l'articulation avec la question des droits individuels. C'est-à-dire que quand on regarde ce que fait Mölzer, il articule des choses particulièrement de manière très pernicieuse, il articule la question des droits individuels, des libertés individuelles, la question de l'individu contre, par exemple, dans l'affaire Snowden, c'est un des premiers à dire qu'il faut que l'Europe donne l'asile à Snowden, etc. Et il fait emblématique
Marine Le Pen.
Avec Marine Le Pen, ouais. Il y a une couverture, le journal qu'il dirige s'appelle Zur Zeit en Autriche. Mmh. La couverture de Zur Zeit reprend une affiche incitant les citoyens du Reich à se méfier des espions. Alors on voit attention aux espions. Et il mêle ça avec l'affaire Snowden, en fait. Vous avez l'articulation des deux, si vous voulez, symboliquement sur cette couverture, elle est fascinante parce que vous avez les deux. Vous avez sa vieille histoire, il le fait sciemment, parce que l'homme est suffisamment intelligent pour le faire sciemment. Mais il y a aussi cette dimension des droits individuels. Et puis le ciment de tout le monde, c'est la peur de l'islam, parce que c'est l'expérience concrète quotidienne que des citoyens ont, finalement, de l'hybridation de nos sociétés, l'hybridation culturelle de nos sociétés. Et donc, au fond, ils font très habilement une espèce de gloubi-boulga idéologique, mais qui tend quand même à devenir dangereux, beaucoup plus que les anciennes, quand Le Pen disait en 90 « Je n'ai jamais cru que le maréchal Pétain était un traître », bon, au moins, on savait où il se situait. Maintenant, c'est beaucoup plus trouble, et c'est beaucoup plus pernicieux, et c'est là-dessus où il y a danger, à mon sens.
Moi, je rajouterais deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un autre clivage, parce qu'il y a des extrêmes droites. Donc, les extrêmes droites en Europe sont clivées. C'est vrai, il y a des partis qui ne viennent absolument pas du fascisme historique, notamment en Europe du Nord, en Scandinavie, c'est plutôt les partis de filiation poujadiste qui sont des partis en train de devenir très forts. En Norvège, ils sont rentrés au gouvernement. en septembre. Donc après les élections de septembre, ils sont entrés en octobre au gouvernement. Le mal nommé Parti du Progrès. Ils ont 7 ministres au gouvernement. Mais en Europe du Nord, ce sont des partis qui sont plutôt des scissions un peu poujadistes de formation libérale. Le FPE, lui, par contre, il a clairement un passé fasciste. Il a été fondé en 1956 parce que jusqu'en 1955, il y avait un contrôle allié jusqu'au Staatsvertrag, donc jusqu'au traité de neutralité, qui empêchait toute force qui voudrait reconstituer le parti nazi. Comme par hasard, il naît en 1956. Mais il y a un autre clivage, celui entre les forces qui restent compatibles avec des forces libérales et conservatrices qui pourraient créer des alliances, donc des forces qui se retiennent, se modèrent en ce qui concerne l'adoption d'une rhétorique anti-système et qui utilisent peu, sauf dans des conditions particulières, le moteur de l'antisémitisme, sur lequel je vais revenir, d'un côté, et de l'autre côté, des forces qui se veulent anti-système de façon affirmée. Donc ça peut être des forces militantes très minoritaires, comme celles qui ont été nommées, du Forza Nova en Italie jusqu'au NPD en Allemagne, qui sont plutôt groupusculaires. Ces partis-là qui se veulent subjectivement anti-système ou révolutionnaires peuvent parfois prospérer dans des situations de crise exacerbées, comme c'est le cas en Grèce. Donc Hope Doré est retombé à 7%, mais ils étaient à 15% dans les sondages, jusqu'à ce qu'arrive l'assassinat de Pavlos Fissas, le rappeur, le 17 septembre 2013, et puis la répression et les révélations sur le rôle qu'avait joué la direction du parti dans l'assassinat. Mais c'est là, évidemment, le contexte de crise qui explique cela. Ces deuxièmes forces-là ont beaucoup plus de mal à se construire dans une logique d'entrée dans une alliance, de construction d'alliance avec la droite libérale et conservatrice. Ça, c'est un clivage qui les traverse. Deuxièmement, sur ce clivage greffe un autre qui est idéologique, c'est l'utilisation, là encore, de définition de l'ennemi. Là encore, les choses sont pas simples. Je dis tout à l'heure, même en France, l'extrême droite a plusieurs discours sur l'islam et elle peut même varier entre ces discours. Mais historiquement, il y a au moins deux fonctions. Il y a un racisme assez classique contre des gens qui sont perçus en bas de la société, des nouveaux migrants, des nouveaux arrivants ou des migrants qui sont venus comme des ouvriers. Et il y a le discours complotiste qui, lui, se veut rebelle. Historiquement, c'est une des fonctions de l'antisémitisme. C'est pas la seule et c'est plus compliqué là aussi, là encore. Mais l'idée de définir un ennemi qui n'est pas plus faible, mais qui contrôle l'argent, qui contrôle l'intelligentsia, qui contrôle l'art moderne, qui contrôle tous les leviers sans qu'on s'en aperçoive, qui est démoniaque. Évidemment, ils peuvent changer les définitions de l'ennemi. Parfois, il y a des courants qui parlent de l'islam comme les anciens parlaient des juifs. Ou Breivik, dans son pamphlet, il appelle ça le marxisme culturel qui serait le grand complot. Ce que il décrit, ce que d'autres auraient décrit comme le complot judéo-maçonnique. Sauf que lui, il ne s'affirme pas antisémite. Mais il y a ces deux discours, je dirais ces deux clivages entre des forces se voulant nationales, traits d'union sociale ou nationalistes révolutionnaires, et des forces qui sont plus nationales libérales, nationales conservatrices.
Avant de donner la parole à Bernard Richard qui nous a rejoint au téléphone, une dernière question sur l'échelle européenne par rapport aux élections qui arrivent là, à la fin du semestre. Est-ce que vous voyez un gros score de l'extrême droite au Parlement européen, ou est-ce que finalement on en parle beaucoup et finalement ils ne font peut-être pas tant de sièges que ça?
Ça ne peut que être un score important dans un certain nombre de pays centraux, parce que depuis 2008, il y a la crise qui s'est installée et maintenant durablement. Il y a une méfiance accrue vis-à-vis de l'Union européenne. Ça ne sera pas le cas partout. Ça sera moins le cas en Allemagne, parce que c'est le pays qui gagne dans la compétition, même si l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui a raté de peu avec 4,8% l'entrée au Bundestag, au Parlement fédéral le 22 septembre 2013, parce qu'il fallait 5%, ils ont fait 4,8%, qui aura, là, cette semaine, le tribunal constitutionnel allemand vient d'annuler toute barrière en termes de voix. Il y avait une barrière de 3% pour les élections européennes. Le tribunal constitutionnel vient de dire avant-hier, non, il n'y a même pas cette barrière. Donc, ils vont sans doute avoir des députés, mais ça va faire 5-6%. Donc, c'est peu le cas de l'Allemagne, c'est peu le cas de certains pays qui se sont inscrits complètement dans la réforme néolibérale après la chute du bloc soviétique. Mais en France, le FN, on sait qu'il est plutôt en phase ascendante. Et puis, il a fait un mauvais score en 2009. Au dernier scrutin. Ce serait le cas en Grande-Bretagne avec, notamment, il y a deux forces extrême droite ou de droite nationaliste. Il y a le UKIP, qui est quelque part entre le FN marinisé et une droite souverainiste style Dupont-Aignan ou Philippe de Villiers, qui peut faire 20% ou plus. qui y compris profite de la crise des conservateurs. Il y a le BNP qui lui est plus dur, ça ressemble plus au FN sous Jean-Marie Le Pen, même en version dure. Mais les deux sont actuellement présents au Parlement européen. Au moins le UKIP va faire un score plus important probablement. La dernière fois, il a fait 17%. En Autriche, le FPE, il a effectivement été laminé après ses années de participation au gouvernement. Même en 2004, aux élections européennes, il était tombé jusqu'à 6%, donc à 10% au niveau national, mais à 6% européen. Il est remonté en 2009, il va encore remonter. Donc, dans un certain nombre de pays centrales, ça ne peut que être des scores importants.
D'accord, ouais. Alors, on va recevoir Bernard Richard, qui est avec nous au téléphone et qui va pouvoir, lui, témoigner un peu de qu'est-ce que l'extrême droite qui arrive au pouvoir, puisque vous avez...
À l'échelle d'une ville.
À l'échelle d'une ville, voilà, bon. Puisque vous avez réalisé le documentaire « Main brune sur la ville ». Bonsoir et bonsoir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, de on le voit dans votre documentaire, pas toujours simple de vivre dans une ville où l'extrême droite a pris les choses en main depuis quelques années.
Depuis quelques années sans doute, puisque c'est depuis 1995.
Oui.
Et Bompard avait gagné une élection triangulaire, il avait gagné à l'occasion d'une élection triangulaire avec 35% des voix face à d'autres listes, en particulier une liste de gauche, mais les trois listes tournaient autour de 32, 33, 35%. Ce qui est tout à fait saisissant à Orange et à partir de 2008, oui, les dernières municipales, c'est de 2008, je crois, ouais. À Bolène, mais surtout à Orange, c'est le fait que, malgré de très nombreuses manifestations contre cette nouvelle municipalité qui était extraordinairement radicale dans les années 85-2002, Bompard a fait 60% des voix aux élections suivantes, c'est-à-dire qu'en fait, il a connu une espèce d'adhésion populaire, enfin, en tout cas d'une certaine fraction de la population.
Parce qu'il a, on le voit dans votre documentaire, il cible vraiment son électorat, enfin il utilise sa gestion municipale comme vraiment une gestion électoraliste.
Ben certes, mais d'abord ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne cible pas son électorat, il cible un électorat dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire que, comme tous les partis d'extrême droite, ce n'est pas strictement une catégorie sociale qui vote pour eux. Bien sûr, c'est certainement quelque chose du côté de la petite bourgeoisie effrayée des classes moyennes, etc. Ce que dans le film Alaïo définit comme les parcellaires, c'est-à-dire les gens qui ont un petit avoir et qui ont peur de le perdre, mais moi je pense qu'ils ciblent des électeurs absolument dans toutes les couches sociales, et qu'ils en trouvent à peu près dans toutes les couches sociales, pas de façon égale, mais ils en trouvent dans toutes les couches sociales. Et même dans les cités où il y a des personnes d'origine maghrébine, ils trouvent aussi des appuis en effrayant un petit peu les gens sur la conduite des jeunes et en disant « moi, bon part », ou en laissant entendre « moi, bon part », je vais les tenir en main. Donc en fait, c'est il y a incontestablement une adhésion, je dis pas une adhésion populaire, bien sûr, mais une adhésion électorale, puisque la fois suivante, il a fait 61 aussi au premier tour.
Et quelles ont été les principales composantes de sa politique municipale depuis 95, les décisions les plus emblématiques
Emblématiques, surtout des décisions qui ont choqué beaucoup d'opposants. En particulier dans la politique culturelle, la politique associative, ça a été la liquidation des centres culturels, à peu près des centres sociaux, pardon, deux centres sociaux sur trois. Le seul qui était à Bolène a été supprimé aussi. Dans le domaine culturel, c'est la disparition de toute une série d'ouvrages des rayons de la bibliothèque et l'apparition d'autres ouvrages, bien sûr, de très très marqués à l'extrême droite. C'est sûrement les choses emblématique, mais il y a aussi la politique dans le domaine du logement, bien sûr. Il faut savoir qu'Orange était une ville où il y avait beaucoup de logements sociaux, et tout autour d'Orange, il y a des tas de petites villes dont vous connaissez le nom, qui s'appellent Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, Baume de Venise, etc. C'est des noms de vins, comme vous savez. Et les personnes qui travaillent dans les vignes sont souvent des étrangers, ou bien alors des personnes d'origine étrangère, qui en général venaient du Maroc. Et ces personnes ne sont pas logées dans les petites villes. Elles étaient logées en Orange, dans les cités d'Orange. Eh bien, on laisse les cités d'Orange aller à volo. C'est d'ailleurs une question très controversée, parce que le bailleur social, bien sûr, c'est pas bon pas dans les cités d'Orange, mais c'est plutôt du côté du Conseil général qu'il faut charger les bailleurs sociaux, et puis les cités sont dans un état absolument désastreux, et bon, voilà. Ce sont des choses qui sont très... Et puis surtout, peut-être, la gestion de l'Assemblée municipale aussi, qui est extrêmement violente par rapport à l'opposition, voilà, oui. toutes ces choses.
On voit les témoignages d'une personne qui est dans l'opposition, qui témoigne effectivement de ces agressions verbales à chaque conseil.
Oui, oui.
Ils l'ont sorti en septembre 2013 avec la police.
C'est une prise en main extrêmement efficace de la communication, une communication très très agressive, et puis tous les thèmes démagogiques, soi-disant la baisse des impôts, enfin toutes sortes de choses qui quand même ont fait que beaucoup de gens ont voté pour eux. Et d'ailleurs, si on regarde bien ce qui se passe, par exemple, dans les villes que vise le Front National aujourd'hui aux prochaines municipales, on s'aperçoit que la politique de Bompard n'est pas passée inaperçue. C'est-à-dire que le Front National se guide plus vers une gestion du type Bompard que vers une gestion du type des villes qu'il a perdu au bout de 6 ans et qui étaient Marignane, Toulon et Vitrolles, où Maigret avait été élu en 97. Bon, eh bien, la gestion vers laquelle on semble s'orienter dans l'idée du FLN, c'est un peu de prendre Bompard comme modèle, puisque quand même, il a connu une espèce de réussite, quoi, de réussite d'implantation électorale assez solide. Voilà. Et ça crée quand même une très forte aspiration sur les conservateurs du coin, je veux dire, sur les élus de l'UMP, par exemple. Un certain nombre d'élus de l'UMP.
Pour terminer l'émission, on va aborder les différentes manières de lutter contre l'extrême droite. Voilà, réaliser un film sur la gestion municipale d'une ville par l'extrême droite en éteint. Gaël Brustier, comment vous voyez les choses actuellement pour le meilleur moyen de lutter contre l'extrême droite sur le point de vue électoral, dans la rue
Déjà, je pense que les personnes qui font, les militants ou des chercheurs ou les journalistes, les écrivains qui font une recherche, qui développent un certain nombre d'études sur l'extrême droite, je pense que c'est très très important. Je pense que il faut essayer de créer un mouvement de réaction de l'opinion, mais qui soit pas, je crois, hein, je dis ça prudemment, mais je pense que c'est pas du tout sur le terrain de l'indignation morale, si elle est parfaitement légitime, mais je crois pas qu'elle soit suffisante. Et ce que nous, on s'était proposé de faire, c'était de montrer la gestion à l'échelle municipale dans les différents domaines de compétences d'une municipalité, et puis de laisser le spectateur ou de suggérer au spectateur qu'il puisse imaginer ce qui pourrait se passer si ces gens avaient beaucoup plus de pouvoir au niveau, disons, des conseils
nationaux,
au niveau d'une région, voire au niveau du pays. Imaginez qu'il y ait une alliance électorale entre la droite conservatrice, néo-conservatrice, hein, qu'il faut bien distinguer de la droite traditionnelle, hein, la droite néo-conservatrice, qui est au sens strict réactionnaire, contre-révolutionnaire, qui aux États-Unis va essayer encore aujourd'hui de remettre en cause des conquêtes qui ont été celles du temps de Roosevelt. C'est vous dire à quel point ils sont rétro. Hein.
Oui. Merci.
Une partie de cette droite est tentée par l'alliance, et on peut imaginer que l'extrême droite arrive dans un gouvernement d'alliance à contrôler ça fait dresser des choses sur la tête, un ministère comme l'Éducation nationale.
Oui, celui de la culture,
la culture,
effectivement. Merci Bernard Richard. On va passer la parole à Gaël Broustier sur justement ces mouvements de résistance. Alors ils sont multiples, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, des mouvements de résistance dans la rue, des mouvements de résistance, on le verra peut-être juste après dans le monde du travail aussi, si on a le temps d'aborder la question.
Je pense que quand un citoyen fait acte de militantisme pour faire valoir une idéologie alternative à celle de l'extrême droite, c'est toujours bien. Maintenant, faut regarder les choses en face. Le problème de l'extrême droite, moi j'ai du mal à le disjoindre de la question de la grande défaite idéologique de la social-démocratie et de la gauche radicale depuis une trentaine d'années en Europe. À ce titre, je pense qu'il faut regarder un peu ce qu'écrivait Stuart Hall, qui vient de décéder, qui était le grand penseur britannique, et il pointait quand même la grande faillite du Labour par rapport à Thatcher, mais c'est des leçons qu'on peut aussi retenir pour l'ensemble de la gauche, de la social-démocratie, de la gauche radicale en Europe. On a aujourd'hui deux postures à gauche. On a une posture qui est une posture de gestionnaire, une posture qui consiste à essayer de gérer la crise, à faire des propositions, à essayer d'être des bons gestionnaires, etc., qui est celle de la social-démocratie. On voit à l'évidence qu'elle ne fonctionne pas beaucoup. Et puis vous avez une gauche radicale qui a été portée longtemps par les espoirs des forums sociaux. Ces espoirs avaient entraîné, non pas un mouvement populaire massif, mais avaient introduit dans le débat public des idées nouvelles, des espoirs nouveaux, des pratiques locales nouvelles, etc. Et aujourd'hui, on voit que cette gauche radicale semble en panne. Alors, je dis pas qu'elle n'a que des défauts, loin de là, mais je crois qu'elle a trop tendance à s'en reporter au monde ancien, au monde keynésien d'avant. Et aujourd'hui, la force des droites, des extrêmes droites, alors évidemment avec des succès divers, avec plus ou moins d'habileté, etc., heureusement, parce que s'ils étaient tous habiles et intelligents, on aurait beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, encore. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'ils articulent, comme le faisait Thatcher, l'extrême, le cas le plus pur, l'idéal type, c'est-à-dire qu'ils articulent la nostalgie de l'ancien, la grandeur passée, etc., etc., avec une recomposition sociale et idéologique totale de l'organisation sociale de nos pays. De ce point de vue-là, le travail à faire à gauche est énorme, aussi bien chez les socialistes, la social-démocratie, etc., que la gauche radicale. Et surtout, la question, c'est que vieille leçon de l'histoire de la gauche, c'est que marcher côte à côte, frapper ensemble. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de salut hors l'unité. D'accord. Et que si on n'est pas unitaire à gauche, même dans les différences, même avec des différences, c'est l'unité qui fait changer, qui fera changer la gauche, y compris le Parti Socialiste aujourd'hui au pouvoir. C'est pas du tout la division, ni de vouloir punir le Parti Socialiste. Ça, c'est un danger majeur, et c'est ce qui ouvre une voie, un boulevard aux extrêmes droites, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans leur vaste variété, dans leur grande variété.
Oui, alors, Bernard Schmitt, donc on voit qu'il y a du travail au niveau de la gauche politique, au niveau des syndicats également. Il y a un discours alternatif à porter et à mettre le Front National devant ses contradictions. Ça va être le mot de la fin, puisqu'il vous reste une ou deux minutes.
Alors effectivement, merci. Cela me semble primordial. Il me semble en effet qu'il faut marcher sur deux jambes. Le marqueur moral, idéologique, le marqueur des principes. Il y a des choses qui ne passent pas et qu'on n'accepte pas, et que ce n'est pas banal de prôner le racisme anti-musulman ou antisémite ou autre. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour les raisons qui ont été dites, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent ou qui se croient plus souffrants que d'autres, qui n'écouteront plus, y compris en disant les autres ont fait leur preuve, on a vu la droite, on a vu la gauche au gouvernement, et ben ceux-là, soi-disant, on ne les a jamais essayés, ce qui est faux parce qu'ils ont gouverné des villes, on a vu ce que ça donnait, on vient d'en parler, ils ont co-gouverné des pays en Europe, y compris sur la dernière décennie, ils n'ont pas fait des miracles. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, en France, ils jouent cette carte. Nous, on ne nous a jamais encore essayé comme alternative. Donc, des gens qui souffrent seront fatigués au bout d'un moment par un discours moral. Donc, il est nécessaire, mais il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Donc, le mouvement social et le mouvement syndical ont un rôle primordial à jouer, à la fois comme porteur d'autres alternatives solidaires et progressistes qui ne reposent pas sur l'idée qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et donc il faut choisir qu'il faut exclure, et évidemment comme un barrage qui est indispensable parce que l'extrême droite tente de gagner le jackpot en progressant, y compris sur le terrain de la soi-disant incarnation de la colère sociale, du mécontentement social, qui est par ailleurs légitime.
On aurait pu faire une émission de 2 ou 3 heures sur le sujet. Désolé, on va être obligé de de rendre l'antenne à l'émission suivante.
On n'a pas pu parler de la résistance par la rue. On a fait y avoir des membres de la Horde qui ont.
Il y a un bon exemple à Vienne.
On va à Vienne,
le fameux bal des corporations étudiantes d'extrême droite fin janvier. C'est le bal où est allé Marine Le Pen le 27 janvier 2012. Ils ont remis la même chose le 24 janvier 2014, sauf que ça s'est très mal passé pour eux. Il y avait 8000 contre-manifestants et ça s'est très mal passé pour eux.
D'accord, très bien.
Merci. Bon, merci nos trois invités, Gaël Brustier, Bernard Schmitt et Bernard Richard.
Merci.
Au téléphone. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la Fondation Copernic, site internet fondationcopernic.org. Prochain volet de l'émission Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le 28 mars sur les modèles low cost. Voilà, on se posera la question du low cost et notamment des conséquences sociales de ce modèle. Bonne soirée, à bientôt et on
va finir
en musique
les Berruriers Noirs. Salut à toi.
Salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh.